Moi, je disais toujours, la pire journée de l'année, c'était l'ouverture des camps où tu dois te présenter, faire tous les tests physiques, tous les tests avec les docteurs. Donc ça, je l'ai déjà dit. Fait que, mais tu sais, c'est comme le cumulement de tout ce que tu as fait au cours de ton été. Depuis que j'ai eu la chance de prendre ma retraite, là, c'est probablement cet aspect-là qui me manque le moins. Je dis souvent aux gens que je suis encore des entraînements en gymnase, mais c'est plus du training que je fais. C'est juste pour bien me sentir, puis pouvoir prendre là, une coupe de bière le soir de temps en temps.
Daniel Brière, accompagné de Mario Langlois hier. Mais c'est aujourd'hui que ça a commencé à Montréal. Daniel, salut!
Salut,
Moran! Je le sais, je le sais. Ah, oh, c'est pas évident, cette journée-là. Alors là, toi qui as vécu ça, puis qui as souffert un petit brin, tu vas avoir un peu plus de diligence, tu vas être un peu plus correct avec ta gang, là, par chez vous, là. Tu vas leur dire, là, tu vas dire à tes coachs, non, Melo, attention, on va y aller un petit point. Tu sais pas à note, là. Comment tu t'envisages ça pour ta gang à toi?
C'est ça, j'ai pas décidé encore si je me dis, OK, on va leur donner un break ou si je me dis, non, on va leur faire payer le prix encore plus. mais ce qui arrive, c'est que la majorité de nos joueurs au Maine, dans la ECHL, dans la East Coast, ces gars-là ont passé, il y a quelques joueurs qui font des camps de la Ligue nationale. La majorité des joueurs font des camps de la Ligue américaine, donc ils sont déjà testés quand ils arrivent là, à nos camps. Nous autres, il n'y a seulement que 4, 5, 6 peut-être là, qui ne sont pas testés quand notre camp commence. Donc, c'est moins une priorité là, de notre côté.
Écoute, Daniel, l'ambiance, elle est comment à Philadelphie avec la grosse équipe, avec les changements, d'abord avec l'arrivée d'un nouvel entraîneur et un adjoint qu'on connaît très bien à Montréal également?
Il y a beaucoup de vent positif du côté des Flyers. Puis là, on vient d'annoncer dans les dernières minutes là, que Provorov a finalement signé une entente de 6 ans avec les Flyers. Puis ça, là, il n'y a pas de doute, je le cacherai pas. C'était la clé pour les Flyers. Tu sais, un gars comme Konechny qui n'est pas signé encore. Tu peux t'en passer un petit peu plus qu'un gars comme Provorov. Provorov, c'est le défenseur numéro un des Flyers.
Ouais.
Il joue à toutes les sauces. C'est lui qui joue contre les grosses lignes. Donc, tu pouvais pas te passer d'un gars comme ça. Donc, c'est une très, très grosse signature pour les Flyers. Puis, il n'y a pas de doute que l'arrivée d'Alain Vigneault amène beaucoup de vent positif pour les Flyers. Si tu regardes à ce qu'Alain Vigneault était capable de faire, partout où il a passé, il a gagné. Donc ça, là, de ce côté-là, c'est les gens le savent. Maintenant, là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de travail pour Alain Vigneault, mais c'est très, très positif.
Bon, évidemment, il est allé chercher Michel Therrien pour le seconder. Dis-moi une chose, il y a des gars à Philadelphie, j'imagine, qui doivent être heureux du changement comme tel d'entraîneur. On amène un Alain Vigneault, un gars d'expérience, qui le connaissent très bien parce qu'Alain coachait les Rangers. Alors, c'est bien perçu hein, de la part des joueurs, hein, j'imagine.
Tu as raison. C'est très, très bien perçu pour plusieurs raisons. Premièrement, les gars veulent gagner. Des joueurs comme Claude Giroux, Sean Couturier, ça fait des années là, que les Flyers, ça va plus ou moins bien. Ces gars-là veulent gagner. Donc, d'amener un coach, la trempe d'Alain Vigneault, qui a fait ses preuves auparavant, c'est très, très positif. Les gars sont contents. Pour ce qui est des jeunes joueurs, ben eux autres, ils se disent, tu sais, ce qu'on entend un peu plus, c'est qu'on va apprendre un peu plus. On a un coach d'expérience. On sait qu'on peut se fier à lui. Donc, de ce côté-là. Puis, tu sais, ce qui est intéressant du côté des Flyers, tu as mentionné Michel Therrien, mais il y a aussi Mike Yeo. C'est deux anciens entraîneurs-chefs.
Oui.
Donc, sur le banc, on va avoir 3 entraîneurs-chefs là, qui vont être là pour soit que ce soit pour les systèmes de jeu ou pour corriger les joueurs, dépendamment de leur chacun là, ce qu'ils vont avoir comme travail. Puis il y a aussi un Yann Laperrière qui revient, qui est adoré par tous les joueurs. Lui, c'est un peu comme la colle qui garde tout ensemble. Donc je dirais là, que c'est un des meilleurs coaching staff que les Flyers ont jamais eu. Fait que ça, là, de ce côté-là, les gens, les joueurs, les fans sont très, très excités.
Et Alain est allé chercher Kevin Hayes parce qu'il l'aimait bien à New York, j'imagine.
Ouais.
C'est ça. Hein?
Oui, puis écoute, il n'y a pas de doute que les Flyers ont payé extrêmement cher pour un Kevin Hayes. Ils ont dû avoir à surpayer, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais ce qui arrive, c'est qu'il y a un Nolan Patrick qui prend du temps à décoller. Puis l'année passée, les Flyers espéraient que Nolan Patrick prenne le centre numéro 2, le rôle de centre numéro 2, mais il n'a pas été capable de vraiment s'envoler avec ce rôle-là. C'était trop pour lui. Donc, d'amener un gars comme Kevin Hayes qui peut jouer le rôle de centre numéro 2 amène une meilleure position à Nolan Patrick, qui maintenant va se retrouver sur la troisième ligne. Il va avoir un peu moins de pression. Ses confrontations, ça va être contre les troisième, quatrième lignes des équipes adverses. Ça va être un peu plus facile pour lui, je pense, dans ce rôle-là. Beaucoup moins de pression. Puis ça va peut-être lui donner la chance là, de prendre un gros step là, cette année. On a vu, tu sais, quand je pense à un Sean Couturier, ça lui a pris un 5 ans vraiment avant qu'il devienne là, le centre numéro 1 des Flyers. Je ne dis pas que Patrick va être un centre numéro 1, mais puis s'il peut juste dans 2-3 ans devenir un solide centre numéro 2, Kevin Hayes là, pourrait être une grosse raison de tout ça.
Daniel Brière est notre invité avec grand plaisir. L'offre hostile pour Sébastien Aho. Écoutez, moi, je pense que moi, vous connaissez mon point de vue là-dessus. C'était pour faire une offre hostile, puis de faire peut-être des ennemis, t'es aussi bien d'y aller all-in. Je trouve que le directeur général a fait une offre qui était pour être égalée. Daniel Brière, si t'avais été directeur général, que ce soit en Caroline ou ailleurs, est-ce que tu aurais égalé cette offre-là absolument, sans hésitation?
Oui, sans aucun doute. Écoute, un gars de la trempe de Sébastien Aho, tu peux pas te permettre de perdre ça. Une équipe comme la Caroline, en plus, qui a peut-être pas toujours les ressources pour aller signer des gros agents libres, il ne peut pas se permettre de perdre un jeune qui avait développé. Moi, ce que j'ai aimé dans l'offre de Marc Bergevin, c'est le fait qu'il y avait beaucoup de dollars donnés en partant. Donc, c'est un peu là que le Canadien espérait surprendre la Caroline, parce qu'on sait que le propriétaire là-bas aime pas ça, dépenser beaucoup son argent.
Right.
Donc, je suis sûr qu'il est pas très, très content de ça, mais il y avait aucun doute que la Caroline se devait absolument d'égaler cette offre-là.
L'utilisation de Price versus Kincaid en début de saison, Ronald dit « Ah ouais, il fallait jouer. Comment ça va, Carey? Un matin, ça va bien. Goal à soir. Ça va jouer. Ah ouais, il fallait jouer. » Ou bien toi, tu dis que c'est important de voir à l'œuvre Kincaid le plus rapidement possible. Tu vois ça comment?
Ben écoute, moi, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que finalement, le Canadien amène de l'aide à Carey Price.
Ouais.
Les dernières années, là, pour moi, Niemi n'était pas un très, très grand gardien, pas un gardien que tu pouvais te fier. Mm-hmm. Vraiment, je pense qu'il y a une nette amélioration de ce côté-là. Okay. Puis pour moi, ça dépend du début de saison. C'est sûr que les deux premiers matchs commencent avec Carey Price, mais disons que le Canadien commence bien, puis après 5 matchs, on est 4 victoires, 1 défaite, mais tu peux te permettre de commencer à jouer, laisser jouer Kincaid, puis voir s'il va bien ou non. Si les choses vont de l'autre côté, ben là, il n'y a pas de doute que la pression va monter très, très rapidement, puis on va devoir faire jouer Carey Price. Donc, d'après moi, ça va dépendre du début de saison du Canadien.
Tu sais, on a eu souvent des conversations, toi et moi. Je me souviens, peut-être la plus récente, c'est peut-être celle de KK, ou toi, corrige-moi s'il le faut. Toi, tu étais peut-être hésitant à le garder toute l'année. Ou je me souviens plus, mais il me semble que c'était ça un peu. Toi, tu étais le genre plutôt à dire « Hey, fais tes classes, prends ton temps, pressez-vous pas, puis tout ça. » Ça a réussi au Canadien avec Mété. Ça a réussi au Canadien avec KK. Penses-tu qu'on pourrait donner une chance à Peeling ou même Suzuki cette année, ou un des deux, ou aucun des deux?
Ben, tu sais, oui, puis je te disais, c'est vrai, t'as entièrement raison. Je disais l'année passée, on est mieux de commencer Kotkaniemi dans les mineurs,
ouais.
À moins qu'il ait la chance de jouer beaucoup. Puis,
okay.
Puis c'est ce que le Canadien a fait. Il s'est retrouvé sur la troisième ligne tout au long de l'année. Il y a eu un petit relâchement en fin de saison, mais il a quand même connu une belle saison.
Ouais.
Si on est pour le faire jouer autant qu'on a fait jouer Kotkaniemi l'an dernier, moi, j'ai pas de problème à ce que ces joueurs-là restent. Mais là, écoute, il y a de moins en moins de place. Les attentes sont plus hautes du côté du Canadien. Je serais surpris là, que les deux puissent, quand je parle de Suzuki et Pauling, que les deux puissent jouer sur le top 9 du Canadien. Donc, c'est pour ça que j'ai comme l'impression que ces joueurs-là vont commencer dans les mineurs, mais ça dépend aussi toujours des blessures au camp d'entraînement.
Mais OK, je veux pas le comparer à Thornton, pas deux minutes, mais je me souviens que Pat Byrne, j'avais eu la conversation avec à Boston, puis il avait dit Thornton, je vais le faire jouer sur un quatrième trio, puis tout ça, puis tout ça. Ryan Poehling, c'est-tu un gars qui pourrait jouer sur un quatrième trio avec Thompson, dépendant des matchs,
oui.
Dépendant... Hein?
Oui.
Qu'est-ce que t'en penses?
Oui, je pense que oui. Uh-huh. Mais moi, ce que je te demande, c'est à long terme, est-ce que tu veux développer Poehling à devenir un joueur solide de quatrième ligne ou tu veux qu'il aille dans les mineurs, jouer sur la première ligne, uh-huh. développer son sens offensif,
ouais.
Avoir la chance de jouer sur l'avantage numérique, prendre la confiance de ce côté-là pour qu'à long terme, tu puisses l'avoir sur ton top 6 ou ton top 9. Moi, c'est ça qui est à débattre. T'as utilisé Joe Thornton, c'est sûr que pour lui, ça a bien fonctionné. Mais il y a aussi plusieurs exemples des joueurs qui s'en sont jamais remis.
Ouais, c'est intéressant ça. Puis toi qui a une tête de directeur général, tu vas concevoir que quand tu joues à St. Cloud States, à St. Cloud, puis tu joues 35 matchs par année. 36 matchs.
Mm-hmm.
Tu joues pas des calendriers de 70 matchs, 72 matchs. Fait que t'es 80 matchs. Fait que vraiment, là, il a pas joué beaucoup de hockey. Il a pratiqué en tabarouette, ouais. Mais il a pas joué beaucoup de games comme tel, ce gars-là, dans les 4 dernières années. Tu comprends?
Fait que. T'as entièrement raison.
Tu sais, fait qu'à un moment donné, peut-être que ça serait bon que oui, effectivement, comme tu le dis si bien, ah ouais, joue du hockey avec les pros, avec les big boys. KK va jouer avec les big boys. Il va jouer avec du calibre supérieur. Mais il y a une chose qui l'avantage. C'est un gars 6 pieds 2, tu sais, 190 livres. C'est un gars qui est... Mais c'est débattable. T'as raison, c'est débattable. Peut-être que t'es mieux de...
Ouais.
C'est sûr que la foule, on aimerait le voir. La foule veut le voir, mais c'est pas ça qui est plus
mondial. Puis la foule, puis les gens vont réaliser très vite qu'il va être capable de se débrouiller puis aider les Canadiens sur la quatrième ligne.
Ouais.
Mais à long terme, est-ce que c'est bon pour son développement?
D'accord.
C'est la seule question qui me fait peur. Puis comme tu as mentionné, quand, dans les collèges américains, on joue beaucoup moins de matchs. Donc, est-ce que tu veux le faire jouer avec le Canadien, jouer en moyenne 8 à 10 minutes par match, ou tu veux l'envoyer avec Joël Bouchard à Laval, puis lui donner la chance de jouer un 20 à 22 minutes à chaque soir pour son développement? Ça se pourrait que ce soit mieux comme ça, mais ça va être une décision difficile probablement là, pour l'entourage du Canadien.
Jean-Jacques Daigneault sur Jonathan Drouin.
Jonathan, il a eu une belle carrière junior. Il l'a montré ici quand il a gagné à la Coupe Memorial avec Nathan MacKinnon en 2013. Extrêmement talentueux. Moi, j'ai bien aimé Jonathan à Montréal, mais j'ai aimé encore plus quand il a enfilé la Coupe Stanley avec Tampa Bay. Je pense que quand Stamkos s'était blessé, c'était vraiment le joueur le plus dominant dans la finale de la Coupe Stanley contre Chicago, si je ne me trompe pas. D'après moi, c'était le joueur le plus dominant de Tampa Bay à ce moment-là. Je pense qu'il a profité d'une opportunité d'un leader, du fait qu'un leader du club était blessé. Puis je pense que lui aussi, Jonathan, il vouait un bel avenir.
Daniel Brière, peut-il dominer son sport?
Oui, sans aucun doute. Il a le talent pour le faire. Ça, pour moi, il n'y a aucun doute. Puis ce que j'aime, là, c'est qu'on repart à zéro pour Jonathan. Ça a été une saison très, très difficile l'an dernier. Mais là, on repart à zéro. Les matchs, il n'y a personne qui a de but encore, il n'y a personne qui a de points. Il commence à la même place que tout le monde. Puis des fois, pour un joueur de hockey aussi, là, la confiance, c'est quelque chose qui ne s'enseigne pas. Quand les choses décollent puis ça va bien en partant, c'est beaucoup plus facile. La saison continue à avancer puis tu te sens de mieux en mieux. C'est tellement un bon feeling. C'est tellement plus facile de jouer au hockey. Mais quand les choses commencent à aller dans l'autre direction, des fois, là, ça peut être dur d'arrêter ça. Puis, écoute, Jonathan, en étant Québécois à Montréal, ici, il entend toutes les rumeurs, il entend les fans, les mononcles, les matantes, les cousins, les cousines, les amis qui vont travailler, qui se font achaler. Il en entend du bord du côté. Fait que des fois, pour un Québécois, là, ce côté-là, c'est pas facile.
C'est ce que Jean-Jacques nous disait aussi, cette fameuse pression. Mais écoute, donc, on va l'écouter quand même, Jean-Jacques. Tu vas voir, puis tu commenteras rapidement.
C'est pas évident. Montréal, c'est un gros marché. Mais je pense que dans tout ça, moi, je l'ai tout le temps vu comme ça. On jouait beaucoup avec beaucoup de pression, je devrais dire, à Montréal. Mais je dirais que 75% de cette pression-là était une pression intrinsèque. C'est une pression que l'athlète met sur lui-même. C'est pas une pression de l'extérieur. Il y a peut-être une petite partie de la pression qui vient de l'extérieur, des journalistes, peut-être du management, peut-être d'un head coach, quelque chose comme ça. Mais je pense que la plus grande pression, c'est l'athlète veut essayer de performer à son plein potentiel à tous les soirs. Puis s'il le fait pas, mais il est satisfait de ses performances. Puis peut-être que cette pression-là est encore plus grande quand on vit dans un gros marché comme Montréal et Toronto.
Daniel, veux-tu élaborer rapidement là-dessus? Comment est-ce que c'est?
Oui, bien, une chose qu'il ne faut pas oublier, tu sais, dans un cas d'un. Disons que c'est un joueur de quatrième ligne.
Oui.
Que lui, son rôle, c'est de sortir, puis d'aller frapper, puis de se battre, puis de déranger l'adversaire. C'est beaucoup plus facile de contrôler cette pression-là parce que tu peux contrôler comment tu vas te donner, jusqu'à quel point tu vas te donner, tu vas te sacrifier. Quand tu es un joueur offensif comme Jonathan, que tu dois créer de l'offensive, que tu dois marquer des points, fabriquer des jeux, des fois, les choses tombent pas en place comme tu le prévois. Donc, de ce côté-là, c'est plus difficile un peu de contrôler ce qui se passe en avant de toi. C'est pas une excuse. Écoute, il se fait payer. Puis ces joueurs-là, les joueurs offensifs, se font payer justement parce qu'ils sont capables de faire des choses que les autres joueurs sont pas capables de faire. Mais c'est cette pression-là qui est montée, je pense, en lui l'an dernier. Puis il n'a pas été capable de changer le cap de bord. Mais écoute, je suis excité. Jonathan Drouin, c'est tout un talent. C'est tout un joueur de hockey. Puis j'espère qu'il va sortir comme on l'a vu dans le passé. Surtout à la Tampa Bay, comme Jean-Jacques mentionnait.
On l'espère tous. Merci, Daniel Brière. Toujours intéressant. J'ai déjà hâte de te reparler.
Bien, merci, Moran. C'est le fun de te reparler aussi.
OK. Bye-bye, Daniel.